comme caractéristique, finalement, de l'art. Ouais. De l'art en général, enfin de beaucoup de formes d'art. Et ça, tu l'as opposé à une autre reconstitution du mouvement dont tu prétendais que c'est deux reconstitutions différentes natures, une autre reconstitution du mouvement qui consistait à reconstituer le mouvement, non plus en fonction d'instants privilégiés, mais en fonction d'instants quelconques, en fonction de l'instant quelconque. Et ça, je disais en effet, ça c'est le cinéma, et avant le cinéma, c'était ça le roman. La relation du mouvement à l'instant quelconque. Et non plus à des instants privilégiés. Alors, l'objection qu'il me fait, c'est pas une objection, en fait, c'est quand même, ça revient à dire, oh, faut pas aller si vite, parce qu'après tout, un homme de cinéma aussi important et aussi fondamental que Eisenstein, qu'est-ce qu'il fait? Sinon, une reconstitution du mouvement à partir d'instants privilégiés. Vous voyez, ça a l'apparence d'une objection, mais comme il m'a jamais fait d'objection, Dieu merci, ça ne doit pas en être une. C'est au contraire l'offre d'une direction à analyser. Une seconde question qui m'intéresse, là, mais qui serait plus technique, c'est très bizarre, s'il est vrai que Bergson tend à définir, mais Franck ne l'a pas bien vu, tend à définir le tout, la totalité par l'ouvert, alors que pour la plupart des gens, le tout, c'est au contraire quelque chose de fermé. C'est bizarre, ça, dire quelque chose comme lâcher des formules du type « Eh ben le tout, c'est pas difficile, c'est l'ouvert. » La question est que, s'il est vrai que Bergson dit ça, bizarrement, il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça aussi, et c'est Heidegger. Et c'est Rilke. Il y a des poèmes très beaux de Rilke sur l'ouvert. Et est-ce qu'il y aura un rapport, ça, entre l'idée bergsonienne et Heidegger, ou Rilke, ou Hölderlin? Bon, je veux juste répondre à la première question. Ou essayer de répondre à la première question, parce que elle renvoie à quelque chose que je peux considérer comme du déjà fait. Et qu'en effet, ça fait problème. Bon, si on voit un film d'Eisenstein, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, en effet, c'est du mouvement, c'est même parmi les plus beaux mouvements de cinéma, mais comment ne pas reconnaître que c'est une reproduction, une reconstitution du mouvement en fonction d'un temps privilégié et à la lettre en fonction de points de crise? Bon. Je dis, c'est une objection qu'en apparence, je crois. Parce qu'en fait, quand je disais le cinéma, il ne se définit pas simplement par la reproduction du mouvement, il se définit par ceci. Il y a cinéma lorsque la production du mouvement découle d'une analyse du mouvement. Bien. Ce qui revient au même que dire. Il y a cinéma lorsqu'il y a reproduction du mouvement en fonction de l'instant quelconque. Pourquoi? Parce que vous n'avez d'analyse du mouvement que lorsque le mouvement n'est pas découpé d'après des instants privilégiés, mais découpé d'après des instantanés. L'instantané, c'est l'instant quelconque. Un instant quelconque étant donné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous sentez bien que l'instant quelconque, c'est en fait une relation. C'est une relation entre deux instants. Sinon, c'est une abstraction, l'instant quelconque. On me dira, c'est quoi l'instant quelconque? C'est rien, quoi, c'est quoi? En fait, instant quelconque, c'est une notion parfaitement concrète et déterminable. Et si je dis instant quelconque comme ça, ça veut dire un instant indéterminé, un instant égalité. Donc, comment déterminer l'instant quelconque? L'instant quelconque est parfaitement déterminé comme équidistance entre deux instants. Donc, vous avez des instants équivalents. Dès lors, votre analyse du mouvement mérite le nom analyse du mouvement, puisque elle considère des coupes équidistantes. À ce moment-là, il y a analyse du mouvement. Vous voyez, ce ne sont pas des instants privilégiés, là, vous pouvez définir concrètement et distinguer concrètement l'instant tel qu'on et l'instant privilégié. C'est évidemment pas un instant privilégié, puisque l'instant quelconque désigne seulement la relation entre deux instants dont le caractère n'est nullement d'impliquer un sommet, un minimum ou un maximum du mouvement, ou même une singularité du mouvement, mais uniquement d'être équidistant de l'instant, de l'autre instant. Bien. Alors je dis, et je crois pouvoir maintenir, que si le mouvement n'est pas reproduit en fonction d'instant quelconque, c'est-à-dire en fonction d'instant équidistant, il n'y a pas cinéma ni possibilité de cinéma. Bien. Et ça, ça reste vrai pour à la lettre, le cinéma en tant que technique assignable.
La vidéo.
Mais là-dessus, pour la vidéo, ça je crois. Mais là-dessus, je crois aussi pour la vidéo. Là-dessus, que des instants quelconques, c'est-à-dire des instants équidistants, soient choisis de manière à coïncider avec des instants privilégiés vieille manière, ça c'est parfaitement possible. Pour ceux qui se rappellent des textes d'Eisenstein, penser à la manière dont il a, même s'en est un point où on se dit, mais quoi, pourquoi il a insisté sur les considérations numériques du nombre d'or, non seulement dans chaque image, mais dans la succession des images, etc. Tout son caractère quantitatif du mouvement. Oui, je dirais de Eisenstein que il est complètement, évidemment, homme de cinéma. Ça n'a trop de soin. Mais une de ses astuces diaboliques, c'est de restituer un monde épique et un monde tragique. Restituer un monde épique et un monde tragique, je veux dire un monde épique et un monde tragique, c'était bien des mondes qui reconstituaient le mouvement, mais à partir d'un temps privilégié. Eisenstein fait du cinéma. En tant qu'il fait du cinéma, il est comme tout le monde. C'est-à-dire, il ne peut reconstituer le mouvement, et il doit reconstituer le mouvement de cette manière radicalement nouvelle, en fonction d'un temps équidistant, donc d'un temps quelconque. Mais ce qu'il y a d'étonnant chez Eisenstein, c'est qu'il se sert de la méthode cinématographique pour restaurer un nouveau monde épique et tragique. C'est-à-dire, il calcule ses équidistances de telle manière qu'elles ressuscitent les moments privés. Ça vous pouvez toujours. Mais le procédé sera quand même le maintien de l'équidistance, suivant des rapports du nombre d'or, de la succession d'or. J'ai répondu. Voilà. Alors, bon, continuons. La dernière fois, et j'insiste beaucoup sur mon besoin vraiment de beaucoup numéroter ce que nous faisons, pour que, quand on avance, et puis je le dis pas pour que vous veniez toujours aussi nombreux, mais je le dis pour que vous veniez moins nombreux, hein. Quand vous venez, il faudra venir tout le temps, hein, du coup, hein. Ce n'est pas découpable ce que je fais cette année. Alors vous avez tort de venir, Mais vous voyez, la dernière fois, on a vu deux thèses de Bergson sur le mouvement. Et c'était comme un premier chapitre, quoi, pour appeler ça un nom commode. C'était les thèses de Bergson sur le mouvement. Tout savoir s'il peut en sortir pour le cinéma. On en a vu deux. Je ferai une récapitulation quand j'aurai fini ce que je veux faire aujourd'hui. Et on abordait la troisième thèse de Bergson sur le mouvement. Ces thèses, encore une fois, ça se complique parce qu'elles sont pas, c'est comme tout, c'est comme toujours en philosophie. Il n'y a pas de telle page à telle page ou à tel moment Bergson qui change de thèse. C'est dans les mêmes pages, hein, que tout ça coexiste. Que par glissement, il passe d'un niveau à un autre. Ces trois thèses sur le mouvement, c'est comme trois niveaux d'analyse du mouvement. Et au niveau de cette troisième thèse, la plus complexe, évidemment, c'est, ça devient très difficile, peut-être beaucoup plus intéressant que les autres thèses. Mais justement, les autres thèses étaient nécessaires pour arriver à l'énoncé de celle-ci. Et l'énoncé de celle-ci, elle consisterait à dire, c'est ce que j'avais essayé de faire, de dire la dernière fois, non seulement, si j'essaie d'y donner un résumé, vraiment, non seulement l'instant est une coupe immobile du mouvement, mais le mouvement est une coupe mobile de la durée. Je veux dire, en quoi c'est une thèse complexe, alors ? Parce qu'on est sorti du bergsonisme le plus traditionnel, le plus connu. Le bergsonisme le plus connu, c'est celui qui met d'un côté mouvement et durée, et de l'autre côté, espace et instant. Et qui nous dit, vous ne reconstituerez pas le mouvement avec de l'espace parcouru, pas plus que vous ne reconstituerez de la durée avec des instants. Mais là, vous voyez, il ne s'agit plus de dire ça. Il ne s'agit pas de contredire ça. Mais, grâce à la première thèse, il passe à un niveau beaucoup plus complexe d'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire, ce « de la même manière » que « de la même manière que l'instant est une coupe immobile du mouvement, eh bien, le mouvement est une coupe mobile de la durée. » Si bien que, là, cette thèse, je vous disais, on pourrait presque la présenter sous forme d'un rapport dit d'analogie. Un rapport d'analogie que l'on énoncerait ainsi. Coupe immobile instantanée. Coupe immobile instantanée. Sur mouvement dans l'espace. Égal mouvement dans l'espace sur durée. C'est pas mal qu'ils le disent. Évidemment, ils le disent. Voilà une phrase que je lis lentement, tirée de l'évolution créatrice. Les déplacements, je lis lentement pour que vous suiviez bien, les déplacements tout superficiels de masse et de molécules que la physique et la chimie étudient deviendraient, inconditionnel, mais très prudent, deviendraient par rapport au mouvement vital qui se produit en profondeur, qui est transformation et non plus translation, ce que la station d'un mobile est au mouvement de ce mobile dans l'espace. Deviendrait, par rapport à ce mouvement vital qui se produit en profondeur, c'est-à-dire à la durée, ce que la station d'un mobile est au mouvement de ce mobile dans l'espace. Donc il nous propose explicitement l'analogie. Station immobile. Bon, et j'ajoute, et c'est pas bien. J'ajoute, et c'est pas bien, ça veut dire quoi, et c'est pas bien? Ça veut dire, je m'en tiens à Bergson, c'est Bergson qui me soucie, c'est pas bien pour Bergson. Car Bergson n'a pas cessé de dire et ne cessera jamais de dire, vous n'avez pas le droit de reconstituer le mouvement avec les coupes immobiles. Donc, du côté de premier membre de mon équation, c'est pas bien. Le second membre, mouvement dans l'espace sur durée. Quand je dis ce que la station immobile est au mouvement, le mouvement l'est à la durée. Donc le second terme de mon équation, à savoir que le mouvement dans l'espace exprime de la durée. Pas pour dire comme, c'est bien ça. Là, le coefficient affectif, c'est que c'est bien ça. C'est bien ça. Au vrai sens de la formule, c'est bien ça, à savoir, c'est exact et ça marche. Donc, quand j'établis mon rapport d'analogie, il y a en même temps un glissement affectif du « ça marche pas » à « ça marche ». Le mouvement est bien une coupe mobile de la durée. C'est bien que notre premier problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette thèse d'Einsteinienne, très curieuse, ce soir-là. Autant on pouvait être à l'aise relativement, on savait tout ça d'avance, que finalement, bon, l'espace parcouru et le mouvement, c'était irréductible, tout ça, on savait tout ça. Mais maintenant, il est en train de nous dire tout à fait autre chose. Et sans doute ce qu'il a dit, qui nous paraissait si fin, mais on était tellement content d'avoir compris, il faut se méfier toujours avec les philosophes. Quand on est très content d'avoir compris, c'est que ce qu'on a compris, c'est une condition pour comprendre encore autre chose qu'on n'a pas compris. Alors, je veux dire, c'est toujours des textes à plusieurs niveaux. Donc, ma question actuellement, quant à cette troisième thèse, c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement? Le mouvement dans l'espace est une coupe mobile de la durée. Eh bien, procédons tout doucement. Ça veut dire d'une certaine manière que le mouvement, c'est quoi? Le mouvement dans l'espace. Le mouvement dans l'espace, je dirais que comme on dit, le mouvement, c'est essentiellement relatif. Qu'est-ce que ça veut dire, le mouvement est relatif? Ça veut dire que si fort que vous sachiez quel est le mobile, vous pouvez toujours penser le mouvement comme purement relatif. C'est-à-dire, ce par quoi, ce par rapport à quoi un mouvement se fait, vous pouvez aussi bien dire ou penser que c'est cela qui se meut, par rapport au mobile posé à son tour comme une mobile. La relativité du mouvement. Vous pouvez aussi bien dire que vous vous déplacez par rapport au paysage ou que le paysage se déplace par rapport à vous. Je ne dis pas que vous pouvez le sentir comme ça et dans certains cas vous le sentez comme ça. Mais vous pouvez le penser. Qui revient à dire quoi? Je dirais du mouvement qu'il est fondamentalement une relation entre parties. Je dis le mouvement exprime de la durée. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'on essaie de commenter, encore une fois, chez Bergson. Qu'est-ce que veut dire le mouvement exprime de la durée? La durée, c'est quoi? C'est ce qui change. Et Bergson, finalement, n'a jamais donné une autre définition de la durée. La durée, c'est ce qui change. C'est ce qui change et qui ne cesse pas de changer. On avance un peu. Le changement, c'est quoi? Pour des raisons qu'on va comprendre que tout à l'heure, il faut bien que je me précède dans cette analyse. Bergson nous montrera que le changement, lui, c'est une affection du tout. Le mouvement, relation entre parties, le changement affection du tout. Sans comprendre encore, je veux dire, sans bien comprendre où on va quelque part. Le mouvement exprime de la durée, cela veut dire une relation entre parties exprime une affection du tout. Le changement, c'est l'affection du tout. Le mouvement, c'est la relation entre parties. Bon. Un mouvement exprime un changement. Le mouvement exprime de la durée, cela veut dire le mouvement comme relation entre parties exprime un changement comme affection du tout. On a au moins donné un sens plus détaillé à la thèse bergsonienne. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un mouvement, donc, exprime un changement plus profond. Ce que Bergson traduit parfois très durement, très, très, là, quand il veut supprimer toute nuance, il dit, une translation exprime finalement une transformation. Transformation. Plus profond que la translation. C'est-à-dire le mouvement comme relation entre parties, il y a la transformation comme changement d'un tout. Bien plus, dans un texte de l'évolution créatrice, il dira « Au-delà de la mécanique de la translation, il fallait imaginer une mécanique de la transformation. » Bon. Il faudrait, plus ça se complique, plus la philosophie doit être rythmée tout d'un coup par des retombées très simples, très concrètes. Ça a l'air déjà très compliqué, très métaphysique. En fait, est-ce qu'il ne veut pas dire quelque chose de très simple aussi, ça ne s'exclut pas. Là où le plus complexe coïncide vraiment avec le plus simple, dans une espèce de chute. Ben oui, je crois qu'il veut dire quelque chose de très simple. Mouvement. Prenons des exemples de mouvement. Je sors. Je sors. Je vais faire ma petite promenade. Deuxième exemple. L'oiseau s'envole. Troisième exemple. Je cours parce que j'ai vu à 10 mètres quelque chose à manger. Qui dira que tout cela, c'est des mouvements? Vous n'allez pas dire ça quand même. Mais bien plus. Enfin, c'est du vrai mouvement, ça. Parce que les physiciens, ils nous parlent de quoi? Si je me situe, par exemple, au niveau des physiciens du XVIIe siècle, ils nous parlent de quoi? De boules de billard. Voilà ma question. Vous comprenez? Quand on veut progresser, ça dépend de quel progrès on se propose, mais faut généralement bien choisir ses exemples. Je dis, le mouvement exprime de la durée, c'est-à-dire, le mouvement comme relation entre parties exprime un changement comme affection du tout. C'est exactement pareil. Pour le moment, c'est pas pareil mathématiquement, santé. Je peux passer d'une formule à l'autre. De la formule simple mais difficile à comprendre, le mouvement exprime la durée de la durée, je suis passé, en essayant d'un peu mieux définir, le mouvement comme relation entre parties exprime un changement comme affection du tout. Alors, c'est pas évident si, tout dépend comment je taille mes exemples. Si j'invoque mes boules de billard, c'est du mouvement. Toute la physique de la communication du mouvement au XVIIe siècle s'est fait à partir des exemples de ce type. Deux corps en mouvement se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel cas est-ce que chacun des deux rejaillit? Dans quel cas est-ce que l'un entraîne l'autre? D'après quelle loi l'un entraîne-t-il l'autre, etc. Bon. C'est des exemples du mouvement pour et dans quel but? C'est bon d'exemple du mouvement, mais dans un but déterminé. À savoir, pour faire une science quantitative du mouvement et de la communication du mouvement. Donc, c'est pas étonnant qu'on s'adresse à ce type de mouvement. Lorsque je pose une toute autre question, le mouvement dans l'espace exprime-t-il quelque chose d'une autre nature? Il est bien probable qu'il faudra d'autres exemples. Or, je reprends. Je sors faire ma promenade quotidienne. Supposons que je sois un être d'habitude. Et même si, bon, à cinq heures, Emmanuel Kant sortait tous les jours faire sa petite promenade. Quand la nuit tombe, le vampire s'envole. Le vampire se lève quand la nuit tombe. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous pouvez multiplier les exemples. Ça va de soi que lorsqu'il s'agit de mouvements réels et non pas de mouvements abstraits déjà saisis dans des conditions artificielles comme les boules de billard, quand il s'agit de mouvements réels, ça exprime de la durée en quel sens? Ben, je sors pas n'importe comment, je fais pas une translation dans l'espace comme ça. Ma translation dans l'espace est à la lettre produit. Par quoi? Quand la nuit tombe, je sors. En d'autres termes, c'est un changement dans le tout. Vous me direz, qu'est-ce que c'est ce tout? On va très très lentement. C'est un changement assignable comme affection d'un tout. Le tout de la ville, le tout de la journée, le tout de la campagne, qui m'appelle à la translation au point que ma translation ne fait qu'exprimer ce changement dans le tout. Ça va de soi. Et même si je sors, si je fais ma petite promenade après avoir bien travaillé. Bon, même chose. Il faudrait dire, un changement assignable dans le tout est comme la raison suffisante du mouvement de translation. C'est lui le déclencheur du mouvement. L'oiseau s'envole. Supposons qu'il s'agisse d'une migration. C'est ça un mouvement concret, un mouvement réel. C'est pas les boules de billard dans leur système isolé. Boules de billard qui sont supposées se mouvoir d'elles-mêmes. Dans l'exemple de la pure physique et de la communication du mouvement. L'oiseau s'envole et migre, supposons. Il est bien évident que la migration comme mouvement de translation exprime un changement dans le tout, à savoir un changement climatique. Je cours ayant vu une nourriture ayant faim. Translation dans l'espace qui implique quoi? Mais c'est exactement comme si, entre ma faim et la nourriture, je pourrais presque les assimiler en termes alors de physique, à nouveau, pour revenir à la physique, à une différence de potentiel. Une différence de potentiel s'est creusée dans un tout. C'est-à-dire, dans l'ensemble de mon champ perceptif. Une différence de potentiel s'est creusée entre ma sensation de faim, la perception de l'objet aliment. Le mouvement dans l'espace trouve sa raison dans cette différence de potentiel puisqu'il se propose précisément. une sorte d'égalisation potentielle, au sens où j'absorbe la nourriture. À ce moment-là, une autre différence de potentiel se creusera dans le tout. Je serai allé d'un état du tout à un autre état du tout. Si vous comprenez des exemples aussi simples, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À la limite, il n'y a jamais de mouvement de translation à l'état pur dans le monde. Les mouvements de translation expriment toujours par nature les changements du tout. En d'autres termes, les mouvements dans l'espace, les mouvements de translation renvoient toujours à des changements qualitatifs ou évolutifs. Ça paraît très simple tout ça, mais si j'insiste tellement, c'est pour vous faire suivre l'espèce de cheminement de la pensée bergsonienne à cet égard, où précisément il met en valeur des choses, mais sans lesquelles on ne comprend pas du tout ça. Or ça, je peux le dire presque, là, je peux réintroduire le concret dans la science. Et cette fois, c'est la première fois que je cite un texte de Matière et Mémoire. Il ne s'agit plus de savoir. Chapitre 4. Il ne s'agit plus de savoir comment se produisent dans telle partie déterminée de la matière des changements de position, mais il s'agit de savoir comment s'accomplit dans le tout un changement d'aspect, changement dont il nous resterait d'ailleurs à déterminer la nature. Et dans le même chapitre, phrase encore plus nette. Il nous dit finalement, même les physiciens doivent bien invoquer des mouvements de type tourbillonnaire. Ils ont beau décomposer le mouvement au maximum, ils en viennent toujours à des mouvements tourbillonnaires. Or, la direction que ces mouvements indiquent n'est pas douteuse. Ils nous montrent, cheminant à travers l'étendue concrète, des modifications, des perturbations, des changements de tension ou d'énergie, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les différences de potentiel, et rien autre chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas un mouvement de translation qui ne renvoie à une perturbation, à une modification, à un changement de tension ou d'énergie. Et dire le mouvement exprime la durée, ou dire, ça revient au même, le mouvement comme relation entre parties exprime un changement comme affection du tout. Vous voyez, ça revient exactement à dire. Toute translation trouve sa raison dans une perturbation, dans une modification, dans un changement de tension ou d'énergie qui affecte le tout ou qui affecte un tout. Voilà, alors il faut que ce soit très très... Pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas et qu'on croit une espèce d'autonomie du mouvement dans l'espace? Pour une raison très simple, je crois, et que Bergson a très bien analysé. C'est que, c'est pour la même raison que finalement, on prend toujours sur les choses des vues immobiles, des coupes immobiles. En effet, je divise finalement le monde en deux. Je distingue des qualités et des quantités. Qualité, c'est par exemple le rouge, Et je pense que le rouge, c'est quelque chose de simple, que c'est une sensation simple. Et que, en tant que sensation simple, c'est dans ma conscience. Or, c'est de la même manière et c'est en même temps que j'attribue à ma conscience des sensations qualitatives simples et que j'attribue à la chose des déterminations quantitatives infiniment divisibles. J'ai mis les qualités dans ma conscience comme quelque chose de simple et je renvoie aux choses des mouvements infiniment divisibles. Et c'est sur la base de ce dualisme que je dis un peu, ah ben oui, tout ce qui est qualitatif, c'est ma conscience, c'est ma sensation qualitative, et ce qui revient aux choses, c'est un peu l'univers du cartésianisme, et ce qui revient aux choses, c'est le mouvement infiniment divisible. Et en fait, c'est pas ça. Si je m'interroge sur ce que c'est qu'une qualité, qu'est-ce que c'est une qualité? Une qualité, c'est une perturbation. Une qualité, c'est un changement de tension, c'est un changement d'énergie. Une qualité, c'est une vibration, où c'est des millions et des trillions de vibrations. Une qualité, elle existe peut-être bien dans ma conscience comme sensation simple, mais elle existe dans la matière comme vibration et manière de vibrer. Le rouge, c'est un mode de vibration. Le bleu, c'en est un autre. Que dire alors de ce mouvement-là? La lumière devient rouge. Qu'est-ce que c'est ce mouvement que j'exprime dans le terme « rougir » ? La lumière devient rouge, ou bien de rouge, elle passe au bleu. C'est des variations de vibration. Ce mouvement vibrationnel, lui, il dépasse complètement la dualité entre une sensation supposée simple et un mouvement de translation supposé suffisant. En fait, c'est deux abstraits, la sensation simple et le mouvement supposé suffisant. Ce qui est concret, c'est quoi? C'est le mouvement comme trouvant sa raison, comme trouvant son principe de production. Dans quoi? Dans un changement. Ça bleuit, ça rougit, ça passe du rouge au bleu, la lumière passe d'une couleur à une autre, etc., etc. Bon, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Juste essayer de commenter qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Le mouvement dans l'espace exprime de la durée. Mais quand même, j'ai été trop vite. Le mouvement dans l'espace exprime de la durée. J'ai tout de suite transformé ça en le mouvement comme relation entre parties exprime un changement comme affection du tout. Alors, ça pouvait se faire parce que ça coulait tout seul, mais maintenant, on revient un peu en arrière. Comment, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que j'avais le droit d'introduire alors des notions si complexes? Et pourquoi? Je suppose que vous m'accordiez que d'accord. De ce point de vue, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord vous-même, mais vous verrez plus tard, il faut d'abord comprendre. Hein. Supposez que vous m'accordiez qu'en effet, le changement exprime de la durée. Vous dites oui, en effet, quand je sors à 5 heures du soir, ma translation renvoie à un changement. Or, la durée, c'est ce qui change. Donc, d'accord, jusque-là, ça va. Mais comment introduire ces notions, alors? Le mouvement comme relation entre parties exprime le changement comme affection d'un tout. Là, il faut aussi faire confiance à personne, et c'est très curieux. Vous sentez bien que tout ce autour de quoi il tourne, c'est une certaine manière de dire. Vous savez, le tout et les parties, c'est deux notions qui ne sont pas sur le même plan. En d'autres termes, c'est pas en faisant une addition de parties qu'on arrive à un tout. D'accord. Alors, quelque personne le dise, il ne serait pas ni le premier ni le dernier à le dire. Beaucoup d'auteurs nous ont expliqué que le tout et les parties, c'était pas sur le même plan. Ce qui va nous intéresser, ou ce qui devrait nous intéresser, c'est la manière dont, pour lui, c'est pas sur le même plan. Où là, je crois, il est très unique. Parce que son idée, elle est très simple, elle consiste à dire, bah oui, c'est pas sur le même plan, parce que les parties, c'est toujours dans l'espace, alors que le tout, c'est le temps réel. Et ça, c'est très nouveau. Autant l'idée que le tout est autre chose que la somme de ses parties, c'est une idée très, très courante, tout à fait courante. Mais la répartition des deux plans, des parties et du tout, sous la forme, les parties, c'est de l'espace, et le tout, c'est du temps réel, ça, c'est très curieux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous vous rappelez, et là je ne voudrais pas trop revenir là-dessus, que j'ai essayé la dernière fois de montrer pourquoi, selon Bergson, le tout n'était pas donné. Le tout n'est pas donné, en effet. Qu'est-ce qui est donné? Ce qui est donné, mettons, c'est des objets. Ces objets, sans doute, peuvent être des parties, quoi. Je dirais, des objets, vous pouvez toujours faire des sommes, vous pouvez toujours faire entrer, par exemple, un objet dans un système. On verra à quel point tout à l'heure, mais il faut attendre, à quel point pour le cinéma c'est très important. Ça. Vous pouvez toujours faire un système. Bien plus, vous pouvez toujours clore un système. Vous établissez un système clos. Par exemple, ce qu'il y a sur la table. Et vous décidez de ne pas considérer le reste. Remarquez, même si je disais c'est un tout, ça, ce qui n'est pas sûr, mettons un ensemble, c'est un ensemble qualifié. C'est l'ensemble des objets qui sont sur cette table. De même, si je dis l'ensemble des objets rouges, c'est un ensemble qualifié. Qualifié en quel sens? En sens que cet ensemble se définit parce qu'il exclut les objets non rouges. Mais lorsque je dis le tout, tous les objets rouges, acceptons l'idée que ça a un sens, que cette formule est un sens. Tous les objets qui sont sur cette table, là aussi, acceptons qu'une telle formule ait un sens. Mais si je dis le tout tout court, est-ce que ça a un sens? Il est bien évident que le tout, tout court, n'est ni donné, ni même donnable. L'ensemble des objets qui sont sur cette table, c'est donné. L'ensemble des objets rouges, c'est donnable. Mais le tout, c'est si peu donné, ou même donnable, que beaucoup d'auteurs ont pensé que la formule « le tout » était un concept vide ou un non-sens. C'est un non-sens, que la formule le tout n'avait strictement aucun sens. Chez Bergson, c'est très curieux. Lui, il va son chemin très, on risque de se retrouver bergsonien avant d'avoir compris comment ni pourquoi. Car il nous dit à peu près ceci. Le tout n'est pas donné ni donnable, d'accord. Est-ce que je dois en tirer la conclusion que le tout n'a pas de sens? Non. Cela veut dire qu'il n'est pas de l'ordre du donné. Oui. Alors, de quel ordre est-ce qu'il pourrait être? Il est l'ordre de ce qui se fait et ne cesse pas de se faire. Vous vous rappelez, ça renvoie à des choses qu'on a vues la dernière fois, ce qui fait et ne cesse pas de faire. Ça, c'est la durée. c'est la création d'un quelque chose de nouveau à chaque instant. C'est l'instant suivant qui continue l'instant précédent au lieu de le reproduire. C'est la production d'un quelque chose de nouveau. Le tout, il dira, c'est forcé que ce soit pas donné ni donnable. Encore une fois, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire, c'est la durée. C'est ce qui se fait, c'est très curieux, parce que, comprenez, il ne veut pas dire une chose plus compliquée lorsqu'il dit, le tout, c'est l'ouvert. Le tout, c'est l'ouvert. Et il y a des pages de Bergson là aussi, il faut se méfier, on n'a parfois l'impression qu'une page vous rappelle une page d'un autre auteur. Et puis vous vous apercevez que, en fait, c'est juste le contraire. Je veux dire, il y a une série, il y a une métaphore qui court à travers toute l'histoire de la pensée, à savoir, c'est une métaphore qui consiste à rapporter l'un à l'autre le vivant et le tout de l'univers. Et dire, oui, si le vivant ressemble à quelque chose, c'est pas à quelque chose d'inanimé, c'est pas un objet. Si le vivant ressemble à quelque chose, il faut le comparer non pas à un objet mort, il faut le comparer au tout de l'univers. C'est la fameuse théorie du microcosme. Le vivant est un microcosme, c'est-à-dire un petit monde. Il n'est pas un objet dans le monde, il est lui-même un petit monde. En d'autres termes, il doit être comparé au monde, au tout. Or ça, c'est une thèse qui court. Les Russes, les philosophes ont beaucoup développé, se sont bien mis. Jusqu'à Bergson. Comment ça s'interprétait? Cette thèse bien connue, elle consistait à dire, de même que le tout est la totalité la plus extensive, c'est-à-dire l'ensemble de tous les ensembles, c'est-à-dire de même que le tout est fermé sur soi, de même que le tout est la fermeture absolue, le vivant est naturellement fermé sur soi. Bien sûr, il n'est pas complètement fermé. Il est une image du tout. Voilà que Bergson reprend une vieille thèse. Le vivant comme microcosme, c'est-à-dire le vivant n'est pas comparable à un objet, il est comparable au tout. Mais cette thèse, il en inverse complètement les signes. C'est curieux, là, c'est assez beau, la manière dont il renouvelle complètement un très vieux thème, parce que vous voyez ce que lui va dire. Si le vivant est comparable au tout, c'est parce que le tout, c'est ce qui se fait, c'est-à-dire c'est l'ouvert. Et que le vivant est naturellement ouvert. Il est ouvert sur quoi ? Ben, le propre du vivant, c'est d'être ouvert sur l'ouvert. Il est ouvert sur le tout. Mais le tout lui-même, c'est l'ouvert. Et c'est là que Bergson lance dans l'évolution créatrice un exemple qui va beaucoup nous servir plus tard pour le cinéma, donc je suis forcé de lire la page. Il explique que, bien sûr, on peut toujours fermer un système. Vous voyez, je peux toujours fermer un système. Ça revient à dire quoi ? Eh bien, j'isole un certain nombre de choses. Par exemple, je mets sur la table tel et tel objet, et puis je dis, il n'y a que ça qui m'intéresse. Vous me direz, c'est une isolation par pensée, mais je peux aussi isoler mieux, je les mets dans une boîte. J'isole. Bien, je peux faire le vide dans la boîte, j'aurais encore mieux isolé. Mais peut-être que la science s'intéresse beaucoup et a comme condition cette constitution. J'emploierai pas le mot tout, là, ou je l'emploierai plus, au sens bergsonien. Constitution d'ensemble fermé ou de système clos. Et en effet, vous pouvez sans doute étudier un phénomène scientifiquement qu'en le rapportant à un système clos. Pourquoi? Parce que vous pouvez le quantifier comme ça. Vous voyez bien alors ce qu'il veut dire Bergson. C'est pour ça que la science est bien incapable de saisir le mouvement de translation comme expression d'un changement plus profond. La science, elle peut étudier ces phénomènes selon Bergson qu'en isolant, c'est-à-dire non pas en faisant des tout, mais en arrachant au tout. Arracher au tout quelque chose, c'est constituer un système clos, c'est-à-dire un ensemble. Là, on est en train de essayer finalement de distinguer les deux concepts d'ensemble et de tout. Or, pourquoi est-ce que la science procède comme ça? Parce qu'elle ne peut quantifier que lorsque elle saisit un phénomène en rapport avec quelque chose qui peut ensuite rendre possible une équation. Qu'est-ce qui peut rendre possible une équation? La seule chose qui puisse rendre possible une équation, c'est un système de coordonnées. Abscisse et ordonnée. Quelque chose doit servir par rapport à un phénomène, il faut que vous ayez quelque chose qui puisse servir d'abscisse et quelque chose qui puisse servir d'ordonnée. Mais il ne faut pas exagérer, c'est évident, c'est évident. Qu'est-ce que c'est? Abscisse et ordonnée. C'est des noms mathématiques, mais pourquoi? Il n'y a pas à se demander pourquoi les mathématiques marchent dans la physique, quand même. C'est que abscisse et ordonnée sont des notions mathématiques qui renvoient immédiatement en physique à quoi? Un système clos. Dès lors, dans les conditions où vous avez instauré un système clos par abscisse et ordonnée, c'est bien forcé que vous ayez coupé le mouvement de translation de ce à quoi il renvoie. Alors, dans un système clos en même temps, qu'est-ce qui se passera? Ben, le temps ne mord pas. Le temps ne mord pas, c'est pas un temps réel, comme dit Bergson. Et pourtant, chacun sait que le temps mord, même sur un système clos. Oui, parce qu'il n'est que pratiquement clos. Si tenu que soit son fil qui le relie à un tout, il y a un fil qui le relie à un tout. Et c'est par ce fil, et c'est uniquement par ce fil, que le temps réel mord sur le système. Il faut bien que le système soit quelque part ouvert. Si mince soit l'ouverture. Et c'est par cette ouverture que le temps réel mord effectivement a pris sur le système. D'où cette page de lettres de l'exemple. Nos raisonnements sur les systèmes isolés ont beau impliquer que l'histoire passée, présente et future de chacun d'eux serait dépliable tout d'un coup en éventail. Tout est donné. On fait comme si tout était donné. Cette histoire ne s'en déroule pas moins au fur et à mesure, comme si elle occupait une durée analogue à la nôtre. Comme si elle occupait une durée analogue à la nôtre, c'est-à-dire le temps réel mort quand même. Et voilà l'exemple célèbre. Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Cet extrait célèbre de Bergson, il est très curieux parce que il faut que vous admiriez quelque chose. Je me prépare, il dit, il faut attendre que le sucre fonde. Vous voyez ce qu'il veut dire, l'exemple est très bien adapté à ce qu'il veut dire. J'ai mon verre, je mets de l'eau et un sucre dedans. J'ai constitué un système artificiellement clos. Le verre comme contenant qui isole l'eau, et je mets un sucre dans l'eau. Bien. Si le système était entièrement ouvert, voilà. Le temps serait comme une espèce de succession où l'instant suivant reproduit l'instant précédent. C'est pas ça. Il faut attendre que le sucre fonde. C'est très curieux ce qu'il dit, parce qu'enfin, la première réaction, de quoi il parle? Parce qu'il est bien connu qu'avec une petite cuillère, un peu précipité. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire que le sucre fonde? C'est un mouvement de translation. Les particules du morceau de sucre, là, se détachent, tombent dans le fond, Vous aurez beau agiter avec votre petite cuillère, vous précipiterez le temps. Mais il faut attendre que le sucre fonde. C'est-à-dire, dans un système clos, il y a toujours une ouverture par quoi le temps a pris sur le système. Si bien que, de ce point de vue, vous direz, là on va retomber en plein sur le commentaire littéral de Bergson, vous pourrez dire, le mouvement de translation, les particules de sucre qui se séparent du morceau, un mouvement de translation encore une fois, marque le passage d'un premier état du tout à un second état du tout, c'est-à-dire le passage d'un état où vous avez sucre dans l'eau à un autre état du tout où vous avez eau sucrée. Il a fallu du temps réel pour passer l'un à l'autre. Personne n'en demande pas plus. Donc, il faut bien qu'il y ait une ouverture qui relie le système artificiellement en soi. C'est-à-dire que le système ne soit clos qu'artificiellement. Mais qu'il garde un rapport avec l'ouvert, par quoi le temps réel, il faut attendre que le sucre fonde. Tout ceci pour dire quoi? En quel sens, finalement, Bergson peut traiter comme équivalent les notions de durée, de tout, le tout et un tout. À quelles conditions finalement? À condition de bien séparer les deux concepts d'ensemble et de tout. L'ensemble, c'est quoi? D'après la lettre, il me semble, du Bergsoniste, il faudrait dire l'ensemble, c'est une réunion de parties dans un système artificiellement clos. Et c'est très vrai que le mouvement de translation est une relation entre parties. Le tout, c'est quoi? Le tout, c'est l'ouvert. C'est le rapport du système avec l'ouvert. C'est-à-dire, c'est le temps réel ou la durée. Durée égale tout. Par là même, devrait devenir comme limpide la formule complexe de tout à l'heure, le mouvement comme relation entre parties exprime un changement comme affection du tout. Bien qu'à la limite, une seconde, tu diras après s'il y a... À la limite, quelle serait notre conclusion pour essayer de voir l'ensemble de cette troisième thèse bergsonienne sur le mouvement? Ça reviendrait à dire, écoutez, il faut distinguer trois niveaux. Il faut distinguer trois niveaux. Voilà. J'essaie maintenant, j'essaie de vous avoir donné juste assez de données pour comprendre cette thèse compliquée. Trois niveaux qui seraient trois niveaux de quoi? Je prépare ce que j'ai encore à dire aujourd'hui, à part, peut-être, j'en sais trop rien, mais c'est ça qui nous intéresserait tout à l'heure, peut-être trois niveaux qui appartiennent à ce qu'il faut appeler l'image. Mais peu importe, hein. Ces trois niveaux, ce serait quoi? Premier niveau, les objets dans l'espace. Objets qui sont des parties. Mais contrairement au logicien, il dirait le tout n'en a pas moins un sens. Simplement, ce n'est pas l'ensemble de tous les ensembles. Le tout qui est de la durée. c'est-à-dire de l'ouvert ou du changement. Deuxième niveau, le mouvement qui est essentiellement relatif aux objets dans l'espace, le mouvement de translation qui est relatif aux objets dans l'espace, mais qui rapporte ces objets dans l'espace à la durée. D'où le mouvement dans l'espace exprime la durée. Si bien que maintenant, je ne me contenterai pas de dire, voyez comme ces trois niveaux, je ne me contenterai pas, ces trois niveaux, je retrouve exactement, au niveau des objets et des ensembles artificiellement enclos, c'est quoi? C'est l'équivalent de ce qu'il appelait tout à l'heure les coupes immobiles. C'est l'équivalent des coupes immobiles instantanées. Le tout, le troisième niveau, c'est l'équivalent de la durée. Et je dirais, en quel sens le mouvement de translation, c'est-à-dire le mouvement dans l'espace, en quel sens le mouvement dans l'espace exprime-t-il la durée? Ou exprime-t-il de la durée? Maintenant, je peux dire mieux. Il exprime de la durée exactement dans la mesure où le mouvement dans l'espace rapporte les objets entre lesquels il s'établit à la durée, c'est-à-dire au tout. La translation exprime une perturbation plus profonde. Voyez, cette fois-ci, j'ai une distinction triadique. Le mouvement, c'est ce qui rapporte les objets dans l'espace à la durée, et ce qui rapporte la durée aux objets dans l'espace. Le mouvement, c'est ce qui fait que les objets dans l'espace durent malgré tout, si clos que soit le système artificiel où je les considère. Et c'est ce qui fait en même temps que la durée conserve non seulement ce qui se passe en moi, mais ce qui se passe dans les choses. Donc, le mouvement dans l'espace, là, à la double, à la situation charnière, c'est pour ça que c'était le niveau 2, de rapporter les objets dans l'espace au tout, c'est-à-dire à la durée, et le tout aux objets dans l'espace. C'est exactement en ce sens, donc, que le mouvement de translation exprime du changement ou de la durée. Ouais. À une condition. On a presque fini, mais pas tout à fait fini. À une condition. Ça ne marcherait que, voyez que si mes trois niveaux sont communicants. Il faut que mes trois niveaux soient communicants. Il faut que le mouvement de translation opère de telle façon que sans cesse, les objets découpables dans l'espace soient rapportables à la durée, et la durée rapportable aux objets. En d'autres termes, rien ne marcherait dans le système si la durée n'avait pas elle-même un étrange pouvoir de se diviser et de se réunir, et de ne cesser de se diviser et de se réunir. Elle se divise en autant de sous-durées. Elle se divise en autant de rythmes de sous-durées. Il y a d'objets dans l'espace concernés par le mouvement, concernés par tel mouvement, et inversement, ces objets se réunissent dans une seule et même durée. La durée ne cesse d'être, à chaque instant, le mouvement de se diviser et de se réunir. Or, qu'est-ce que c'est ça? tous ces exemples, on en aura besoin, c'est pour ça que j'insiste sur la succession des exemples, le verre d'eau, là. Un autre exemple surgit dans un livre très étrange de Bergson, un livre qui a une longue histoire et qui s'appelle « Durée et simultanéité ». Durée et simultanéité, je dis, là j'ouvre très vite une parenthèse, c'est un livre très spécial dans l'ensemble des livres de Bergson, car c'est un livre où Bergson prétend se confronter à la théorie de la relativité de Einstein. Et il a l'air de critiquer cette théorie de la relativité. Et ce livre est à la fois très déconcertant parce que on a l'impression quelque chose que ça va pas, que ça va pas. Et puis on est parfois ébloui alors par aussi des moments qui vont extraordinairement bien. Mais en gros, le ton est, Einstein n'a pas compris. Qu'est-ce que Einstein n'a pas compris et que Bergson veut faire savoir? Est-ce que Bergson est capable de discuter avec Einstein scientifiquement, c'est-à-dire physiquement? Oui, sans doute. Sans doute, il était très savant, Bergson. Il savait beaucoup de mathématiques, de physique. C'est pour ça que ça me gêne quand on, ce qui ne va pas dans durée et simultanéité, quand on l'interprète sur l'insuffisance des données scientifiques de Bergson. J'y crois guère, parce que ces données scientifiques, je crois que ça ne doit pas être ça, si quelque chose ne va pas. Pourquoi quelque chose ne va pas? C'est que Bergson lui-même a répudié ce livre et a refusé toute réimpression de son vivant. Et c'est même assez récemment que, malgré même dans son testament, il a interdit la réimpression, et puis on l'a réimprimé, heureusement, moi je trouve. Heureusement, ça pose un problème. Ça pose un problème moral qui ne nous occupe pas. On l'a réimprimé, donc on le retrouve, celui-là. Qu'est-ce qui est gênant? En effet, c'est qu'on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est Bergson critique de la science? Bergson critique de Einstein? Il y avait un côté quand même bizarre. Nous, remarquez que, depuis la dernière fois, nous sommes mieux armés pour comprendre ce qu'il voulait de toute évidence dans durée simultanéité. Il ne s'agissait pas pour lui de critiquer la relativité, ça pas du tout. Ce serait une idée de démon. Ce qu'il voulait être de très très différent, c'était proposer et faire la métaphysique de la relativité. Vous vous rappelez son idée? Il y a une science moderne qui se distingue de la science ancienne. Et la distinction science moderne, science ancienne, elle est très, très facile à énoncer. C'est l'histoire des moments privilégiés. La science moderne, c'est le rapport du mouvement à l'instant quelconque. La science ancienne, c'est le rapport du mouvement à l'instant privilégié. Et il ajoutait, Bergson ajoutait, mais c'est bizarre. Si la science moderne, c'est bien ça, à savoir, prendre le temps comme variable indépendante, jamais on n'a fait la métaphysique de cette science-là. Car la métaphysique dite moderne, c'est finalement greffé sur la métaphysique antique. Elle a raté sa grande occasion. Sa grande occasion, ça aurait été de faire la métaphysique qui corresponde à cette science-là. À science nouvelle, métaphysique nouvelle. Puisque le monde moderne apportait une science nouvelle, la science qui consistait à traiter le temps comme variable indépendante, c'est-à-dire à reconstituer le mouvement à partir de l'instant quelconque, eh bien, il fallait une nouvelle métaphysique, c'est-à-dire une métaphysique du temps et pas de l'éternel. C'est ce que Bergson prétend faire avec la durée. Une métaphysique du temps réel au lieu d'une métaphysique de l'éternel. Alors c'est normal qu'il se confronte à Einstein. Parce que la théorie de la relativité, c'est une espèce de moment alors privilégié dans l'évolution de la science moderne. Il ne s'agit pas pour Bergson de critiquer la théorie de la relativité. Il s'agit de se demander quelle métaphysique peut correspondre à une théorie aussi nouvelle que la théorie de la relativité. Or, c'est dans le cadre d'un tel livre, on verra et on ne pourra voir pourquoi que bien plus tard, c'est dans le cadre d'un tel livre que Bergson nous dit ceci. Il dit, vous savez, Einstein, il ne nous parle que de la simultanéité des instants. Et la théorie de la relativité, c'est d'une certaine manière une théorie de la simultanéité de l'instant. Quand est-ce et en quel sens peut-on dire que deux instants sont simultanés? Mais dit Bergson, jamais on n'arriverait à l'idée d'une simultanéité des instants si d'abord il y avait autre chose. Et c'est là qu'il lance son idée, toute simultanéité d'instants présuppose d'abord un autre type de simultanéité qui est la simultanéité des flux. Et Bergson lance sa notion de simultanéité de flux. Et la simultanéité de flux, voilà l'exemple qu'il nous donne, qui est aussi bon, aussi précieux pour nous, on le verra tout à l'heure, que le verre d'eau sucrée. Il dit, voilà, je suis sur la rive. Je suis sur la rive et il y a des flux. L'eau qui passe, premier flux, l'eau qui passe. Deuxième flux, ma vie intérieure. On dirait aujourd'hui vie intérieure pour ceux qui n'aimeraient pas ça, on dirait aujourd'hui, mais ça revient exactement au même, une espèce de monologue intérieur. Mais monologue, c'est trop langage, vaut mieux vie intérieure, ma vie intérieure. C'est pas que ce soit formidable, c'est un flux. Et puis, un oiseau qui passe. Trois flux. Pourquoi est-ce qu'il faut au moins trois flux? Eh bien, remarquez que c'est une figure très variable, ces trois flux. Car tantôt, je les saisis en un, une espèce de rêverie, là, où la continuité de ma vie intérieure, l'écoulement de l'eau, et la traversée ou le vol de l'oiseau, tendent à s'unir dans un même rythme. Puis tantôt j'en fais trois. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours trois? Eh bien, il faut toujours trois parce qu'il y a toujours deux flux étant donné, il faut bien un troisième pour incarner la possibilité de leur simultanéité ou non, à savoir la possibilité qu'ils soient réunis dans un même troisième ou qu'ils se divisent, possibilité de réunion ou division.